Bonjour à tous, Dieu est bon. Eh oui, Dieu est bon, il a plein de bonnes choses pour nous et il prévoit toujours des choses assez extraordinaires. Enfin, en tout cas, je pense que vous en êtes convaincus que Dieu est bon et il prévoit des choses extraordinaires pour vous. Amen. Alors, je vais vous parler ce matin de dans la Bible, Esther. Esther, ça vous dit quelque chose certainement pour beaucoup. Avec toute son histoire à Esther, quand même une histoire pas banale. Mais on connaît son histoire, mais qu'en partie, parce que souvent quand on lit la Bible, on retient qu'une petite partie. Alors, ça se situe du temps de Assuérus, donc l'empire perse, et donc la capitale était Suse, qui se trouve vraisemblablement en Iran. Hein. Il avait quand même un empire énorme puisque ça allait de l'Inde jusqu'à la Corne de l'Afrique, donc c'est immense. Et comme il avait envie de se conforter un petit peu dans ce roi Assuérus, la troisième année de son règne, il a fait un festin. Pas un petit festin, un truc qui a duré 6 mois quand même. Moi, je sais pas comment il a fait. Hein, parce que déjà, faire un festin, c'est bien. Le soir, on se met à la diète, on prend juste une petite soupe. 6 mois. Donc, alors, il avait invité plein de monde, hein, tous les chefs et tout ça. Il y avait plein de monde. Et comme ça suffisait pas, et puis qu'il était généreux, mais qu'il avait envie de se faire bien voir, et puis qu'il avait sorti son argenterie, la dorure et tout ça, je vous passe les détails, j'y reviendrai certainement une prochaine fois. Il a décidé que pour tous les gens de la capitale, du plus petit au plus grand, il allait faire un festin d'une semaine. Rebelote. Alors là, mais tout le monde était invité, hein, le gueux, le manant, le chef, tout le monde. Je ne sais pas si on disait des gueux à cette époque-là, mais enfin, peu importe. Et donc, il servait du bon vin. Il ne faut pas en abuser. Mais lui, il en avait abusé un petit peu. Il était un petit peu bien avancé. Et comme il envoie chercher la reine, qui s'appelait Vasti, et parce qu'elle était très belle et voilà, il avait, comme il montrait ses richesses, il avait envie de montrer sa femme pour dire regardez comme elle est belle ma femme. Sauf qu'elle n'a pas voulu venir. Elle dit ça commence à bien faire tes histoires. Mais de ce temps-là, de dire non au roi, il y avait quand même des risques. Et le risque c'est tout simplement la mort quand on ne fait pas ce que le roi veut. Elle a dit non. L'histoire ne dit pas qu'elle est morte, mais elle a été destituée. Je vous passe les détails, mais ça, vous pourrez le lire. Et je vous invite à lire tout le livre d'Esther. Bon, alors, il avait des conseillers qui lui ont dit, bon, ben écoute, la reine Vasti, on la raye de la carte parce qu'elle va donner des mauvaises idées aux femmes qui pourraient prendre de l'indépendance. Il est hors de question, les hommes doivent rester maîtres en leur maison. Donc les conseillers lui ont dit bon tout ça c'est bien, mais le roi après il se dit mais j'ai plus de reine maintenant, comment que je vais faire, ça m'embête quand même. Et donc les conseillers ont dit ben écoute, il n'y a pas de souci, on va chercher une remplaçante, donc on va réunir toutes les plus belles jeunes filles qui sont belles dans tout ton royaume. Je ne sais plus combien il y avait, 127 régions, enfin, c'est province, merci, c'est énorme. Donc le nombre de personnes, de jeunes filles qui ont été rassemblées, j'ose même pas y penser. Bref, et il se trouve qu'à Suse, il y avait Mardoché. Mardoché, il est issu de la déportation, déporté de Jérusalem. Et il avait adopté Esther, qui était la fille de son oncle, mais comme ses parents sont morts, il l'a adoptée, il l'a pris comme fille. Esther, donc, qui était très belle, a été prise parmi toutes les belles filles pour être emmenée, pour être présentée au roi. Et Esther, elle écoute Mardoché. Elle l'écoute et Mardoché lui dit, mais tu diras pas d'où tu viens, tu diras pas que tu es juif, tu diras pas quel est ton peuple, tu diras pas quelle est ta lignée. Donc elle l'écoute. Elle fait attention à ce que lui dit son papa adoptif. Et ça, c'est important. C'était une position, une façon d'être aussi. Vous retrouvez d'ailleurs cette question de l'obéissance des enfants vis-à-vis de leurs parents, en tout cas des parents qui suivent Dieu. C'est important de le préciser. Donc, je le fais en résumé, parce que si je vous commente tout Esther, on va prendre un petit peu de temps. Esther a été choisie par le roi et devient reine. Mais là, petite précision, c'était la 7e année du règne d'Assuérus. Donc on a démarré le festin, on a démarré la 3e année, donc il s'est passé 4 ans. 4 ans entre le moment où il y a eu cette grande fête, où la reine a été destituée, où les jeunes filles ont été rassemblées, ça a pris du temps, où Esther s'est retrouvée effectivement prise et emmenée. Je ne pense pas qu'elle avait tellement envie, mais elle n'avait pas le choix. Ok ? Et mise avec d'autres jeunes filles dans un harem, dans un endroit où on mettait ces jeunes filles, je ne sais pas comment le dire. 4 ans. 4 ans. C'est long, 4 ans. C'est très long. Quand on lit un petit peu, comme souvent dans la Bible, on ne fait pas forcément attention aux dates et au temps qui passent. Pendant ce temps-là, donc Mardoché, lui, il venait tous les jours voir et s'enquérir, savoir si sa fille allait bien. Il était inquiet. Parce que c'était pas. Lui, il n'était pas ravi non plus de ce qui arrivait. Mais il n'avait pas le choix. Mais tous les jours, tous les jours, tous les jours, il venait. Ça durait 4 ans. Tous les jours, il venait prendre de ses nouvelles. Mardoché, lui. Un homme intègre, vraisemblablement, en tout cas, c'est ce que dit la parole, mais je vous le fais toujours en résumé. Il se trouve que comme il vient tous les jours, eh bien, il entend des conversations et il entend qu'il y a un attentat qui se prépare et des gens qui veulent tuer le roi. Alors Mardoché, il aurait pu dire, bon, bah, moi ça me concerne pas, ça me regarde pas, je passe mon chemin. Mais comme c'est un homme droit et intègre, il dit, je ne peux pas faire comme si je n'avais pas entendu. Donc, il prévient le roi, en passant par Esther. Il fait le nécessaire, et ça a été vérifié. Et effectivement, il y avait bien un attentat qui se préparait. Et les deux personnes qui voulaient tuer le roi ont été attrapées et ont été mises à mort. Et ça, c'est presque passé inaperçu. Mais ça a été consigné, ça a été écrit. Et ça a été mis de côté. Il ne s'en est pas glorifié, il a juste fait ce qui lui semblait bon et juste. Et ça a été mis de côté. Pendant ce temps, le roi, vu toutes les provinces qu'il avait, donc il avait mis, il y avait des gens qui s'occupaient de toutes les provinces, et il avait mis une personne du nom de Haman, comme premier ministre. Et ce Haman, donc vraiment quelqu'un qui est un but de sa personne, qui est très fier, en tout cas très heureux de cet honneur que lui fait le roi. Et donc il s'arrange avec le roi. Enfin bref, il y a un édit du roi qui dit qu'il fallait se prosterner devant Haman lorsqu'il passait. Et lui, ça lui plaisait bien. Donc il a tout fait pour que, effectivement, on puisse vraiment se rendre compte que c'était une personne importante. Et ben, Mardoché, lui, il se prosterne pas devant Haman. Il se prosterne uniquement devant son Dieu. Ok ? Il fait pas n'importe quoi. Mais ça plaît pas à Haman. Parce que lui, on lui a rapporté, dis donc, là, il y a... Et lui, c'est parce que c'est un juif. Il veut pas se prosterner. Donc lui, Haman, ça l'agace. Il dit, si on commence à ne pas écouter ce que dit le roi et on se prosterne pas devant moi, ça me porte atteinte. Donc, il apprend, il se renseigne. C'est un juif, mais les juifs, ils apportent des perturbations. Je vais faire tuer tous les juifs. Je vais faire un génocide. Je vais les éliminer. J'en veux plus de ce peuple-là. Donc, il s'arrange avec le roi. Le roi lui a donné son anneau. Un sceau qui lui permet, c'est une bague en fait, avec et tout ce qui est écrit et ordonné, qui a ce tampon, on va dire, du roi, eh bien, c'est officiel et ça doit s'appliquer. Donc, c'est comme ça que procède Aman. Et ça, je remets ça dans la chronologie. Ça s'est passé 5 ans après que Esther a été choisie par le roi et qui est devenue reine. Donc il s'est passé entre le début de notre histoire et le moment où Aman vient au pouvoir comme premier ministre et décide de tuer tous les juifs, il s'est passé 9 ans. 9 années. Donc ça fait quand même, c'est énorme ce temps qui passe. Mais Dieu, lui, les années, il s'en fiche. Il sait très bien ce qu'il est en train de faire. Il sait très bien ce qui se passe. Et il a tout prévu, il a tout organisé. Donc, Mardoché est effondré d'apprendre, parce qu'il y a un édit du roi qui a été traduit dans toutes les langues, et surtout sur un territoire vaste. Donc, tous les juifs se rassemblent, ils prient, ils pleurent, parce qu'ils savent que leurs jours sont comptés. Alors, Mardoché et Esther se mobilisent par la prière, ils jeûnent, et il se passe quelque chose d'important. Je disais tout à l'heure que Esther était obéissante, elle écoutait ce que disait Mardoché, elle écoutait ce que disait son père. Et son père, qui était quelqu'un d'intègre, qui suivait ce que Dieu disait, était de bons conseils, il vivait avec Dieu. Et Mardoché a enseigné à Esther à vivre avec Dieu. Ça fait aucun doute. On pourra revenir à un autre moment. Sur leur vie, sur leur caractère, sur leur façon d'être et de réagir. Alors Esther, à un moment donné, elle prend position. Parce qu'elle s'assoit sur l'enseignement qu'elle a reçu de la part de son père. Parce que du coup, elle hésite et se dit, mais comment moi je peux intervenir? Si je vais alerter le roi et si je vais le voir alors que j'ai pas le droit d'aller le voir. Si j'arrive à un moment inopportun et que le roi n'est pas décidé à me voir, eh bien, je vais être tué, tout simplement. Reine ou pas reine. Le roi faisait un signe pour dire, ok, cette personne, j'ai pas prévu de la voir, mais faites-la venir, cette personne aura la vie sauve. Ou alors, c'est qui cet intrus? Peu importe qui c'est. Enlevez-la de mon regard. Et la personne était tuée. Alors Esther a dit, mais moi, ok, je suis reine, mais je viens qu'au bon vouloir du roi. Et ça fait plus d'un mois que le roi n'a pas voulu daigner me voir. Donc si je ne peux pas me présenter, qu'est-ce que je peux faire? Moi, je suis qui? Je suis rien, je suis toute petite. J'ai beau être reine, je suis toute petite. Mais Mardoché lui dit, mais hé, t'as beau être habité dans le palais, tu es juive, tu fais partie du peuple. Et si tu ne bouges pas, Dieu de toute façon interviendra. D'une autre manière. Mais dans ces cas-là, ta vie, ma vie et toute la lignée de notre famille sera anéantie. Parce que Dieu, il est plus fort. Si on ne suit pas, dit-il à Esther, ce qu'il a prévu, il fera autrement. Il fera sans nous. Mais je donne pas cher de notre vie. Alors, Esther, rapidement, vraisemblablement, se laisse conduire et dit, ok, je me mobilise. Ok, je suis petite, mais je suis grande avec Dieu. Vraisemblablement, elle a dû se dire dans sa tête, alors je vais faire. Et c'est elle qui donne un ordre à Mardochée. Elle dit, tu vas réunir tous les Juifs et vous allez prier et jeûner pendant 3 jours, jour et nuit. Et moi aussi, je vais prier et jeûner avec mes servantes aussi, jour et nuit, afin de me préparer et j'irai voir le roi. Et si je dois mourir, je mourrai. C'est fort. C'est plus que c'est du courage, c'est un acte héroïque parce qu'elle ne sait pas ce qui va se passer. Mais elle ne pouvait pas rester comme ça sans rien faire. Elle ne pouvait pas rester insensible aux pleurs, aux cris et au destin de tout un peuple. Elle s'est mobilisée. Alors, le résultat, vous le connaissez, et je vous invite encore une fois à lire de nouveau ce livre. Elle a eu la faveur du roi, et là aussi, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Parce que, comment faire pour dire au roi, Aman a décidé de nous tuer, mais nous tuer, ça veut dire me tuer. Et tu es complice de ce meurtre, parce que je vais mourir bientôt à cause d'Aman. Comment le dire? Elle s'est laissée conduire par Dieu. Ça, c'est formidable. Elle s'est laissée conduire par Dieu. Parce que, qu'est-ce qu'elle dit? Elle va voir le roi et dit, si ça te fait plaisir, viens, j'ai préparé un festin, viens avec Aman, voilà, et on va se réjouir ensemble. Bon, quand je dis ça, moi je dis, ben attends, il y a des trucs plus urgents qu'à aller casser la croûte. Il y a tout un peuple qui va mourir bientôt, là. On va peut-être faire autre chose que... Viens, j'ai préparé un festin. Et puis comme si ça suffisait pas, le roi est ravi, Aman est ravi aussi, on mange bien, ça s'est bien passé. Et demande-moi ce que tu veux, dit le roi. Et même si c'est la moitié de mon royaume, qui est immense, je le rappelle, je te le donnerai. Ah tiens, ben, pas de mauvaise idée, finalement. Non. Ce qui me ferait plaisir, c'est que tu reviennes demain, je vais préparer un autre festin, et là je répondrai à ta demande et je te dirai ce que j'ai à te demander. Ils refont un festin. Alors Aman, il est super content aussi. Il dit, moi je suis invité, je suis le seul, avec le roi, à être invité chez la reine. Attention, moi je suis un monsieur, moi, qui dit Aman. Il n'y a qu'un truc qui m'agace, c'est qu'il y a toujours ce Mardochée qui ne se prosterne pas devant moi. Sa femme, qui lui est de bon conseil, lui dit, écoute, on va pas se laisser embêter par ce petit garçon-là. On va mettre une grande potence dans la cour, mais très haute. Et puis, il sera toujours temps de, comme tu es bien vu par le roi, de faire pendre ce Mardochée. T'as raison. Les ouvriers ont travaillé, ils ont construit la potence. Et lors du deuxième festin, eh bien, à la fin du festin, le roi demande à Esther, mais qu'est-ce que tu veux? Enfin voilà, il refait tout, voilà, si tu veux que je te donne, je te donnerai plein de choses, tout ça. Et elle lui dit, mais je te demande la vie. Comment ça, tu me demandes la vie? Eh bien oui, il y a un édit signé, pour tuer tous les juifs, et je suis juive, et je vais être mise à mort dans très peu de temps. Mais qui a osé faire ça? Mais pour qui? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Quel est celui qui a décidé une telle chose? C'est lui, ce méchant homme, Aman. Ah ben l'autre, là, il n'était plus tellement fier d'être là. Hein. Là, il était dans tous ses états. Le roi était en furie, il est parti dans le jardin pour pouvoir réfléchir 5 minutes et puis souffler un petit peu parce qu'il était fortement agacé. D'ailleurs, c'est un conseil que je donne à quelques copains quand ils s'énervent. J'ai dit, mais va te promener un petit peu. Et puis après, tu souffles un peu, tu reviens après, plutôt que de t'emballer comme ça. Donc, il revient. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit Aman qui était sur... quand il mangeait vraisemblablement allongé. Donc, il y a Esther qui était là. Et il était pratiquement allongé dessus en disant, mais je te supplie, aide-moi, fais quelque chose. Et le roi, il voit ça, il dit, mais en plus, tu qu'est-ce que tu fais là sur ma femme? Et hop, il avait signé son arrêt de mort. Et comme il y en a un qui dit, au fait, chez Aman, il y a une grande potence qui a été justement faite pour Mardoché. C'est très bien. Vous prenez Aman et vous allez le pendre. Et c'était la fin. C'était la fin de Aman, qui a été pendu, et toute sa famille a été exterminée. Et pour la faire courte, cette histoire, Mardoché devient premier ministre et prend une place importante, mais il prend une place importante, mais avec une particularité, le grand homme des Juifs, aimé par la multitude de ses frères, il recherchait le bien de son peuple et parlait pour l'avantage de toute sa race. Pas pour son avantage, mais pour les siens. Ça nous en dit long aussi sur qui il était, sur sa façon d'être, sa façon d'agir, de réagir. Qu'est-ce qui conduisait sa vie? Alors, cette histoire de Esther, de Mardoché, que j'ai raccourci, parce qu'il y a d'autres événements qui se sont passés, qui sont importants. Parce que Dieu prévoit un chemin pour chacun d'entre nous, ok? Et il ne s'occupe pas du temps qui passe, contrairement à nous, où on trouve le temps long. Et au fur et à mesure que je préparais ce message, je me disais, mais ok, mais d'abord, qu'est-ce que je vais mettre comme titre? Grandir dans la foi. Bon, ok. En redisant que Dieu nous conduit personnellement et conduit l'Église et notre communauté. Et j'étais poussé à remarquer que c'était dans la continuité des précédents messages. Je n'avais pas fait le lien. Je ne sais pas si vous l'avez fait, vous, le lien. Alors j'ai regardé un peu mes notes, le petit bout de papier qui traîne un peu partout, j'en sème partout dans la maison. Alors je cherche où est-ce que je les ai mis. Et j'ai vu que, j'ai commencé par mes papiers, c'est ceux que j'ai retrouvés en premier, en début d'année, sur l'importance de se laisser transformer, changer, être enseignable. Écoutez bien. Accepter d'être déconstruit pour être reconstruit par notre Seigneur Jésus. Ça va peut-être vous revenir, tout ça. Mais ça, c'est important. Au mois de juin, dans le message que vous avez apporté, mais je ne vais pas parler que de moi, mais ce n'est pas de moi qu'il s'agit, mais de ce que le Saint-Esprit nous dit. Ne pas vous laisser déborder ou endormir par le quotidien. Notre confort est ce que nous avons. C'est que futilité tout ça. Mais je ne vais pas le refaire, hein, mais on a parlé de ça. Ne pas vous laisser éloigner de Dieu. Il faut être persévérant. Et on voit que dans cette histoire d'Esther, la persévérance, ça veut dire quelque chose. Demeurez en moi et je demeurerai en vous, nous dit Jésus. Il y a la question de la proximité. David Pérez, le 30 juin, je ne remonte pas très loin. Hein. Nous voulons vivre pour Jésus, mais nous souhaitons garder ce que nous avons, ce que nous sommes. Tiens, là, il y a une redite. Vous le notez, vous aussi. Hein ? Il ne faut pas regarder à ce que nous avons, à notre confort. Nous voulons garder ce que nous avons, ce que nous sommes, nous disait David Pérez. Si je fais confiance en Jésus, ma vie sera transformée en mieux. D'où l'intérêt des premiers messages, de l'importance de se laisser transformer, d'être enseignable, d'accepter, oui, vouloir être transformé. Il faut oublier nos sécurités terrestres pour s'appuyer sur la sécurité divine. Amen. Dan Lee, le 18 juillet, « Dieu nous bénit, mais la parole nous avertit que nous aurons des épreuves. Si nous puisons nos forces dans la Bible, Dieu nous rend forts. » Dieu veut nous changer pour que nous devenions plus forts, nous disait-il. Là aussi, on voit bien qu'il y a un rappel, on voit bien qu'il y a une ligne directrice, qu'il se passe quelque chose là. Nous sommes dans un contexte d'épreuve, nous disait-il. Nos désirs sont en compétition avec les désirs de Dieu. Là aussi, il y a une redite sur les messages précédents. Ne pas s'appuyer sur notre confort, sur notre réalité terrestre. Nos désirs sont en compétition avec les désirs de Dieu. Ok ? Innocent, le 11 août, arrête de t'inquiéter. Dieu pourvoit. Dieu nous prépare à utiliser sa puissance. Dans le contexte de la prédication, il y a des choses qui paraissent passer inaperçues comme ça. Mais si on les note et qu'on les relie avec ce qui a été dit, et ce qui a été dit avant et ce qui sera dit après, c'est des choses importantes. Et elles ressortent. Dieu nous prépare à utiliser sa puissance. Bernard, le 16 août, « L'habitude et la vie nous usent et peut nous faire perdre l'amour et la confiance en Dieu. » Se faire violence, ne pas rester tiède, restons mobilisés, impliqués dans sa vie et dans la vie de l'Église. Là aussi, c'est une suite. Ok, vous le notez bien, hein, qu'il y a une suite dans tout ça. Vous voyez bien, le Gérard, le 1er septembre, la foi vient et grandit au travers de nos difficultés. C'est pratiquement du mot pour mot de ce qui a déjà été dit. Et ceux qui apportent la prédication ne se sont pas fait le mot. Tiens, là, pendant 6 mois, on va parler de telle ou telle chose. Il faut qu'on soit en accord, il faut que ça colle. Non, c'est le Saint-Esprit qui le fait. Moi, ça me bouleverse. Je ne sais pas vous, mais moi, ça me bouleverse. La foi, c'est l'assurance. Il continue pour nous dire, la foi, c'est l'assurance de croire et de vivre ce qui est impossible. Il faut laisser les choses matérielles et terrestres pour mettre Jésus en premier. Si à force de le dire, on ne l'entend pas. Bernard, le 15 septembre, Dieu nous demande parfois de vivre ou de faire des choses qui ne correspondent pas à nos pensées. Il faut alors accepter de faire confiance aux demandes de Dieu via le Saint-Esprit. En précisant, Jésus n'a pas choisi d'être conduit dans le désert, ni d'être mis à l'épreuve. Emmanuel, le 21 septembre, encore et toujours mettre Jésus en premier. Des fois qu'on ne l'aurait pas encore compris dans les messages précédents. Et faire de lui la source de notre joie. Alors on le voit dans ces résumés des messages que Dieu nous conduit personnellement, mais conduit aussi notre communauté. Il me semble bien, mais à vous aussi de réfléchir et de vous laisser conduire, que Dieu veut qu'à titre individuel et communautaire, nous soyons en proximité avec lui. Saisissez tout ce qui peut vous permettre d'être en proximité avec lui. Que nous abandonnions nos sécurités terrestres, nos habitudes, pour nous appuyer sur la sécurité divine. Il faut que ça change. Il faut qu'on change. Et on est dans le changement. Il faut que nous traversions les épreuves avec la force de la parole pour devenir plus forts. J'avais envie de commenter, mais non. Le tout pour faire grandir notre foi, car Dieu nous prépare à utiliser sa puissance. Je le redis à titre personnel, individuel, mais aussi au niveau de la communauté. En préambule, Bernard nous disait tout à l'heure, nous sommes unis, choisis. Il n'y a pas de hasard, hein. Je crois que c'est clair, hein. Et Lucien nous disait tout à l'heure, faire ce que Dieu nous demande, pas ce que nous voulons. Seigneur, merci pour ce temps, merci pour ta présence, merci pour ton Saint-Esprit qui nous guide. Que vraiment ta parole reste gravée en nous et que tout ce que nous pouvons entendre de toi, que ce soit dimanche après-midi, dimanche ou que ce soit par nos lectures de la Bible, eh bien que tout ce que tu as à nous dire reste imprimé dans nos cœurs, dans notre vie, et que nous puissions mettre en pratique tout ce que tu nous enseignes, que nous puissions vraiment nous laisser guider à titre individuel, mais aussi au niveau de notre communauté, que nous puissions être mobilisés pour toi, que nous puissions faire un pas de foi, c'est-à-dire avancer, non pas dans nos sécurités, dans ce que nous savons faire, mais que nous puissions avancer avec ce que tu veux que l'on fasse, que nous puissions être toujours en proximité avec toi pour nous laisser conduire, nous laisser impacter par toi, que nous puissions vraiment être si proches de toi que vraiment nous vivions avec toi et pour toi. Alors merci Seigneur, merci pour tout ce que tu fais dans nos vies personnelles, merci pour ce que tu fais dans notre communauté, merci parce que tu as des plans merveilleux pour nous et que tu nous conduis sur un chemin mais extraordinaire et que ce que tu prépares est vraiment formidable et vraiment très bon et nous allons vivre des choses formidables, soyez-en sûrs, je le redis, nous allons vivre des choses formidables et je te remercie Seigneur Jésus parce que tu nous associes à tes plans et que tu veux vraiment que nous vivions ces choses avec toi. Amen.